Des questions? Questions, témoignages?
Bonjour, Virginie Meiglet, je suis psychanalyste et psychothérapeute, je travaille essentiellement avec des enfants. Là, il y a un thème que vous venez de... j'apprécie vraiment votre exposé, mais il y a un thème que vous avez dit, il me semble, cette femme qui avait avorté par idéalisation de la grand-mère maternelle. Alors, ce qui m'étonne, moi, c'est que parmi les personnes que j'ai pu...
On entend très mal, en
c'est
fait.
C'est l'impression que j'ai. Voilà, bon. Là, moi, j'ai vu le cas d'une personne qui a appris que sa grand-mère avait avorté de deux jumeaux parce qu'elle-même était obsédée, elles étaient deux sœurs, une qui avait été qui était obsédée par l'avortement, qui n'avait pas d'avorté, qui se mettait toujours dans des situations de risque d'avortement, et sa sœur parlait sans cesse de vouloir avoir des jumeaux. Et elle allait voir sa grand-mère en parlant de jumeaux, apparemment sans savoir pourquoi. Et l'histoire a fait que a fait ressortir que cette femme, la grand-mère, avait avorté de deux jumeaux, d'une façon assez, assez violente, avec des aiguilles à tricoter. Et donc, moi, plutôt que l'idéalisation, j'ai l'impression que parfois l'avortement revient plutôt pour faire ressurgir la mémoire. Et avec un peu comme si on héritait d'une faute qu'on n'avait effectivement pas commise, mais aussi on refusait de prendre, on avait envie de faire éclater les choses, plutôt que par idéalisation.
En analyse, s'il n'y a pas idéalisation, il n'y a pas reschématisation. Oui. D'autre part, on le retrouve dans l'exemple là, que j'ai cité, puisqu'il y avait même une reschématisation, bon, certes avec un déplacement, mais quant à une vie pseudo-professionnelle, puisque la grand-mère était pianiste dans des cabarets, cette patiente chantait dans des bars.
Oui.
Mais il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait reschématisation, il faut toujours qu'il y ait idéalisation. Il faut qu'il y ait un idéal du moi. De toute façon, parce que on ne va jamais reschématiser l'histoire de quelqu'un que l'on n'aura pas idéalisé. On n'ira pas inconsciemment se coller dans une galère pareille. Et puis, ça ne marcherait pas de toute façon. Il faut toujours qu'on ait des invariants pour qu'il y ait reschématisation. Regardez quand on monte des généalogies, le nombre d'invariants qu'il y a, le nombre de compulsions de répétition. Mais c'est toujours sur un idéal du moi à la base.
Oui. Oui, effectivement, la signification de deux termes, je suis d'accord sur le fond, mais en me disant en même temps, moi j'ai vu qu'après, une fois quand les histoires sortent, les choses sont remises en place, sont remises en place, effectivement. À ce moment-là, l'avortement n'est pas forcément accepté non plus, mais les relations sont changées. Mais donc, c'est une idéalisation qui est presque, je dirais, presque au niveau inconscient, parce que c'est pas ça.
Elle n'est qu'au niveau inconscient. L'idéalisation, l'idéal du moi n'est qu'au niveau inconscient. Bien sûr, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont livrées sur des effets d'après-coup et qui, justement, très souvent arrivent, et curieusement, lorsque la guidance de cure a amené une désidéalisation. Puisqu'on ne peut pas quitter la position de faux self tant qu'il y a idéalisation de cet autre. Bien sûr, au moment où l'inconscient peut le supporter quand il y a une maturité pulsionnelle suffisante.
Oui. Mais ce que je vois là-dedans, c'est qu'effectivement, par rapport à une... moi, je ne l'ai pas senti finalement plus ça va en travaillant. Je le sens moins par rapport à une personne que vraiment par rapport à une histoire et que par rapport à une histoire effectivement transgénérationnelle. Et donc, sur l'interrelation qui se passe entre...
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais regardez, on a la même problématique, je sors complètement là du contexte d'aujourd'hui, mais avec des patients qui nous disent « mon enfant me déteste, il a 14-15 ans, il m'insulte, il me répond ». Or, on sait que plus un Œdipe est fort, plus il va être masqué. Ce sont toutes les formations de compromis qui se mettent en place à ce moment-là, et tous les mécanismes de défense. Et effectivement, il y a une confusion amour-haine. Et dans l'idéalisation de l'autre, il y a une confusion amour-haine. D'autre part, moi j'ai pris les grandes lignes d'un cas clinique, mais on retrouve l'idéalisation bien sûr par reschématisation déjà encore une fois pseudo-professionnelle.
Moi ce qui m'a frappé aussi, c'est par comment quand une personne se soigne, non pas se soigne, se prend en main, à quel point elle peut libérer une famille.
Ah, tout à fait.
Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir dans des lignées comme ça, souvent par deux, il y avait deux filles. J'ai vu très souvent, il y a deux filles. Toujours deux filles, la mère étant partagée dans les deux filles.
Et oui, j'ai peut-être pas assez insisté oui. là-dessus, puisqu'il est bien évident qu'une IVG peut devenir extrêmement protectrice pour l'enfant ou les enfants post-IVG, d'ailleurs, si un travail suffisant est mis en place, et de toute façon sur les générations qui en découlent, mmh. voire sur l'entourage, d'ailleurs, immédiat.
Ah oui, mais c'est... Merci.
Parce que la dette, quand même, la dette filiale n'est pas portée non plus par tout le monde dans une famille.
Alors ça, elle n'est pas portée par tout le monde, mais quand même...
Elle
retombe sur un, si on se libère, à ce moment-là, chacun a sa parole. Oui. Ça peut...
oui. Avec le symptôme qui est complètement dénié, caché, voilà. évité, etc., déplacé, et qui prend d'autres formes.
C'est pour ça que dans le pire des cas, ça fait effectivement la bête noire, qui est la malade, ou le malade, qui a tous les défauts du monde pour la famille. Mais si effectivement, il se prend en charge, c'est pour ça que c'est vraiment une famille, une génération, une lignée qui est porteuse de souffrance.
Bien sûr.
C'est à vous.
Autre intervention ?
Non, mais tout ça, ça me passionne vraiment, je vous remercie. Moi, je peux dire le cas d'un petit peu, je crois que c'est ce qui s'est passé dans ma famille. La sœur de mon grand-père maternel. Est une jeune femme espagnole, était une femme espagnole, donc qui s'appelait Marie-Neige. Et donc mon grand-père avait perdu sa mère, il y avait 7 enfants, et cette fameuse Marie-Neige avait pris en charge les 7 enfants, elle les a élevés, une des sœurs donc, de mon grand-père. Et cette femme s'est mariée, je crois, parce qu'on n'en parle pas beaucoup hein, dans la famille, elle s'est mariée et elle est morte en couche. Et mon grand-père donc idéalisait cette sœur et pratiquement les 4 sœurs, les 4 cousines germaines, le prénom Marie-Neige revient très, très souvent dans la lignée. Et parmi les 4 cousines germaines, donc moi, ma sœur et mes 2 cousines germaines, qui sont donc les filles de mon grand-père, on a toutes avorté. Et moi, quand j'ai accouché par césarienne, en fait, la préparation à l'accouchement s'est faite dans une maternité qui s'appelait Blanche-Neige. Et ça revient tout le temps.
Ouais. Merci, c'est bien aussi comme témoignage, parce que très souvent, on est pris pour des extraterrestres en tant qu'analyste, lorsqu'on joue avec la linguistique, mais c'est très fréquent, ça.
Autre intervention ?
Il n'y a pas d'autres questions ? Non, on arrête là, si vous le désirez. On reprend à 13h30. Merci.